Votre communauté, vos conversations. SBS French.
La dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, permise par l'article 12 de la Constitution, c'est un phénomène assez rare dans l'histoire de la Ve République. Charles de Gaulle l'avait fait en 1962 et en 1968. François Mitterrand deux fois également en 1981 et 1988. Puis le dernier, Jacques Chirac, l'avait fait en 1997. Une dissolution qui s'était soldée par un échec de la droite aux élections législatives et qui avait mené à une cohabitation de 5 ans entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, leader de la gauche plurielle. On vous propose aujourd'hui de revenir sur cette dissolution ratée de 1997. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Raphaël Baquet, grand reporter au journal Le Monde et autrice de nombreux ouvrages sur la politique française, notamment sur les années Chirac avec les ouvrages Chirac président, Les coulisses d'une victoire, Seul comme Chirac ou encore Chirac ou le démon du pouvoir. Bonjour Raphaël et bienvenue sur SBS French.
Bonjour.
Alors Raphaël, en 1997, vous êtes déjà journaliste au journal Le Parisien. Vous couvrez l'actualité de l'Élysée. Jacques Chirac est alors élu depuis 2 ans seulement. Les élections législatives ne sont prévues que l'année suivante, en 1998. Mais la popularité du Premier ministre de l'époque, Alain Juppé, est en chute libre. Dans quel contexte survient l'annonce de la dissolution par le président ?
En fait, Jacques Chirac fait une première erreur 2 ans plus tôt. Il est élu en 1995 et là, il devrait se dissoudre. Et il ne le fait pas. En fait, il a une majorité à l'Assemblée qui est bien de droite, mais c'est une droite qu'il a désavouée, qui a plutôt choisi Édouard Balladur et qui finalement s'est rallié à lui seulement à la présidentielle. Or, il aurait dû dissoudre à ce moment-là, il ne le fait pas. Et 2 ans plus tard, alors qu'il a une situation économique très difficile et que son Premier ministre est très impopulaire, là, il choisit de dissoudre. C'est une dissolution à contre-temps. Politiquement, vraiment, c'est une erreur. Elle est décidée exactement, d'ailleurs, de la même façon que Emmanuel Macron décide aujourd'hui la dissolution, c'est-à-dire que c'est une dissolution décidée dans le secret d'un tout petit comité à l'Élysée. C'est un peu des conseillers qui font de la politique en chambre, si vous voulez, sans regarder vraiment l'état électoral du pays. Et à l'époque, effectivement, Jacques Chirac croit pouvoir surmonter la difficulté dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire la difficulté à faire passer ses réformes économiques, à changer de pied et à pouvoir maintenir un Premier ministre très impopulaire. Il croit pouvoir passer par-dessus tout ça en se retrempant dans l'élection. Et évidemment, ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire que c'est l'opposition qui gagne, c'est la gauche.
Alors au niveau du contexte politique global en France en 1997, vous parliez de l'impopularité du Premier ministre de l'époque, Alain Juppé. Qu'est-ce qui a provoqué dans les mois précédents cette dissolution de l'Assemblée nationale, cette impopularité du Premier ministre ?
Oh, c'est un classique du genre, c'est-à-dire que Jacques Chirac est élu en 1995 en faisant 1000 promesses et des promesses essentiellement sociales. D'ailleurs, son thème de campagne, c'est de résoudre la fracture sociale. Donc, il promet que justement, il augmentera les salaires, qu'il maintiendra l'âge de la retraite tel qu'il est, c'est-à-dire un âge de la retraite fixé par les socialistes avant, hein, par François Mitterrand. Il promet monts et merveilles, et puis évidemment, il est confronté à la situation économique du pays, au déficit des comptes sociaux, et il fait un virage à 180 degrés avec Alain Juppé, et il décide le contraire, c'est-à-dire de réformer les retraites et de reporter l'âge de la retraite, d'augmenter les cotisations sociales et de bloquer les salaires. Donc évidemment, son Premier ministre devient très impopulaire. C'est ça la source de son impopularité. C'est la contradiction entre les illusions et les promesses d'une campagne et ce qu'il doit faire confronté à la réalité économique du pays. Et donc c'est pour cela que la catastrophe arrive d'une certaine façon. Elle est presque annoncée.
Alors on parlait justement de cette volonté de réformer les retraites déjà à l'époque. Cette volonté, elle mène à d'importants mouvements sociaux, notamment à des grèves importantes dans le pays.
Il y a les plus grosses grèves que le pays ait jamais connues à cette époque. Effectivement, pendant plusieurs mois, et notamment à l'automne et à l'hiver 96 et 97, il y a d'énormes grèves. Le pays est complètement bloqué, tout le monde est dans la rue, les transports ne marchent plus, c'était tout à fait frappant, je m'en souviens très bien. Et donc effectivement, il est confronté à un refus catégorique du pays de toutes ces réformes. C'est une situation grave pour un président de la République, mais c'est une situation à laquelle c'était attendu, car encore une fois, il a fait un virage à 180 degrés sur toute la politique qu'il avait promis de mener.
Alors à quoi Jacques Chirac s'attend lorsqu'il décide d'emprunter cette voie de la dissolution de l'Assemblée nationale et lorsqu'il décide de convoquer de nouvelles élections législatives en 1997?
Il est important de reconstituer le petit groupe qui l'entoure à ce moment-là. Et l'un des artisans de la dissolution est Dominique de Villepin, qui est à l'époque le secrétaire général de l'Élysée, qui est une espèce de gaulliste flamboyant et très théorique, il faut bien le dire. Un diplomate, vous le connaissez, c'est celui qui, des années plus tard, a fait ce fameux discours contre l'engagement de la France dans la guerre en Irak à l'ONU. À l'époque, il est secrétaire général de l'Élysée. Et il théorise beaucoup la politique sans la vivre. Il n'a jamais été élu. Et il a une vision toute gaullienne d'ailleurs, qui est que face aux difficultés, De Gaulle retrempait toujours son pouvoir en faisant des référendums. Donc il imagine que Jacques Chirac doit faire de même. Mais plutôt qu'un référendum, c'est là qu'il imagine cette dissolution. L'idée, c'est de retremper la légitimité du pouvoir dans l'élection. Alors théoriquement, c'est tout à fait louable, évidemment. Le problème, c'est que quand vous avez changé de pied et fait le contraire de ce que vous aviez promis, vous ne pouvez pas gagner l'élection. Et c'est exactement ce qui se passe pour Jacques Chirac. Donc il croit pouvoir se redonner une légitimité en redemandant au peuple ses suffrages, mais en redemandant au peuple ses suffrages, et ben le peuple lui répond, bah justement, on ne veut pas de toi.
Alors à l'époque, est-ce qu'on peut dire que cette dissolution, qui vous l'avez dit, est décidée par un petit comité? Est-ce que c'est une surprise, notamment pour les médias, ou est-ce qu'il y a dans les semaines précédentes des rumeurs ou des bruits de couloir qui laissent supposer une dissolution prochaine de l'Assemblée? Ou est-ce que c'est vraiment finalement une surprise un peu pour tout le monde?
Ah oui, je vais même vous raconter une anecdote tout à fait personnelle. À l'époque, j'ai donc 32 ans, 33 ans. Donc je suis pas très aguerri. Or, Dominique de Villepin teste sur quelques journalistes, sur le journaliste de Libération qui a 25 ans de plus que moi, qui est un homme très très bien, Gilles Bresson, sur une jeune journaliste du Figaro qui a mon âge et sur moi au Parisien. Il teste l'idée de la dissolution. Et je trouve ça tellement irrationnel. tellement fou que je fais un papier, mais c'est un papier sans en faire le gros titre. J'aurais dû faire la une, évidemment, du journal. Et c'est mon confrère de Libération qui est plus aguerri que moi qui comprend que s'il teste ça, c'est qu'ils vont le faire. Donc j'ai fait un ratage journalistique par excès de rationalité. Vous voyez, donc je trouvais ça tellement absurde que je n'y ai pas cru. Donc oui, c'est vrai que ça semblait fou à l'époque. Et d'ailleurs, ça a été une surprise pour tout le monde. Et tout de suite, à partir du moment où la dissolution a été décidée, tout de suite, on a compris que la droite n'allait pas gagner.
La dissolution de 1997, elle survient 9 années après la dernière dissolution, c'était sous François Mitterrand. Est-ce que c'est une manœuvre qu'on ne s'attendait finalement pas à revoir de sitôt dans la politique?
Non, c'est pas le principe, c'est-à-dire que François Mitterrand, il avait utilisé la dissolution de façon judicieuse politiquement. Il arrive en 1981, il a une assemblée qui est encore de droite, puisqu'elle est décalée par rapport à la date d'élection de la présidence de la République. Il dissout pour se donner une assemblée à sa couleur politique, puisqu'il vient d'être élu. Donc c'est comme ça d'ailleurs que la dissolution doit marcher. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que Jacques Chirac, en 95, aurait dû dissoudre, lui. Le problème, c'est que là, il fait une dissolution à contre-temps. Il fait une dissolution alors qu'il est au pouvoir, alors qu'il a une majorité de droite, mais qu'il ne le suit pas tellement, et alors qu'il est impopulaire. Donc c'est plutôt l'utilisation politique de la dissolution qui ne va pas. Institutionnellement, c'est une arme tout à fait normale dans la Constitution. Donc c'est plutôt son usage. Il en fait un mauvais usage. Et d'ailleurs, la personne qui l'a qualifié le mieux, c'est son épouse, Bernadette Chirac. Elle a parlé de dissolution hasardeuse. Je pense que c'est tout à fait le bon qualificatif. C'est-à-dire que c'est un coup de poker, un coup de hasard, et le hasard montrait que, voilà, les électeurs lui disaient non.
Est-ce que vous diriez que finalement Jacques Chirac n'avait pas pleinement conscience des risques qu'il encourait à l'époque?
Jacques Chirac, il a toujours été une bête politique, une espèce de formidable personnage romanesque d'ailleurs. quelqu'un qui adorait le combat, mais il n'a jamais bien compris ce que c'était que l'exercice du pouvoir. D'ailleurs, on l'a vu, à chaque fois, il en a été empêché, en fait. Il ne l'a jamais vraiment exercé. En 95, il est élu, 2 ans après, il se retrouve en cohabitation et d'une certaine façon, il est un président empêché. Et quand il est réélu en 2002, alors là, c'est pas de sa faute, le pauvre, le malheureux, mais il a son AVC 2 ans après et il est de nouveau un président empêché. En vérité, il n'a jamais vraiment exercé le pouvoir alors qu'il a passé toute sa vie à tenter de le conquérir. Donc, je pense que ça tient à sa personnalité et à peut-être à ce qu'il était politiquement, une bête de scène, un homme de théâtre et de combat, mais pas un très grand politique.
En 2017, pour France Info, vous évoquiez dans une interview une forme d'irrationalité du pouvoir, notamment en qualifiant cette dissolution d'irrationnelle à l'époque.
Oui, elle était parfaitement irrationnelle, comme je vous l'ai dit, et justement, elle était tellement irrationnelle que moi, je n'y avais pas cru, mais vraiment, elle était irrationnelle car on voyait très bien l'état politique du pays. On savait très bien qu'il y avait une énorme impopularité. On savait très bien qu'une partie de l'électorat de droite désavouait Jacques Chirac. On savait très bien qu'il pouvait pas gagner, en fait. Et dès qu'il a décidé la dissolution, d'ailleurs, les préfets ont fait remonter. Je me souviens très bien d'avoir fait des enquêtes là-dessus. Les préfets ont fait remonter ce qu'ils voyaient, eux, dans les départements français, hein. Et ils voyaient très, très bien que jamais, jamais la droite ne serait majoritaire, que jamais Jacques Chirac ne pourrait gagner l'élection. Donc ça s'est vu tout de suite.
Alors les législatives, elles sont organisées les 25 mai et le 1er juin 1997, et elles voient la victoire d'une coalition de gauche, la gauche plurielle, qui obtient la majorité à l'Assemblée nationale. Jacques Chirac nomme alors comme Premier ministre Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti socialiste. C'est le début d'une cohabitation de 5 ans, mais pour Jacques Chirac et la majorité, on peut parler véritablement d'un échec cuisant.
Ah oui, c'est certain. Et en même temps, pour lui, ça n'a pas été une mauvaise période. C'est-à-dire que, d'abord, il n'était plus aux manettes, donc c'est toujours beaucoup plus confortable, évidemment, hein. C'est la gauche qui a dû assumer toutes les réformes difficiles. Et puis, il s'est refait une forme d'image sympathique qui lui a permis d'ailleurs de se représenter, hein, une deuxième fois en 2002. Mais c'est vrai que la cohabitation, bah, c'est l'exercice du pouvoir du président bridé. Donc, il n'avait plus quasiment aucun pouvoir, sauf le pouvoir de représenter la nation à l'étranger. Ce qui est déjà pas mal, mais avec toujours flanqué du ministre des Affaires étrangères, qui était celui de Lionel Jospin.
En comparaison avec la dissolution de 1997, est-ce que celle-ci, annoncée par le président Emmanuel Macron, est-ce qu'elle vous surprend davantage ou moins que celle de 1997?
Ah bah elle est exactement comme celle de 1997. Elle est faite par un petit groupe de conseillers. Elle est décidée par un petit groupe de conseillers à contretemps avec un président impopulaire. Donc elle lui ressemble beaucoup. Ce qui change, c'est le paysage politique. C'est-à-dire qu'en 1997, il y avait encore le Front National était déjà très haut, hein, mais il y avait deux grandes forces. Il y avait la droite, le RPR, UDF, enfin l'UMP à l'époque. Et puis la gauche, la coalition de gauche, et d'ailleurs la coalition de gauche l'a emporté sans difficulté. Aujourd'hui, le paysage politique est beaucoup plus fragmenté. Donc c'est pas tout à fait la même chose. La droite UMP s'est effondrée, la gauche est divisée, leurs électeurs sont divisés, et Renaissance, le parti du président, est impopulaire. Et vous avez un Rassemblement national qui a le vent en poupe, mais dont le système électoral des législatives n'est pas le bon système pour lui. Donc c'est très compliqué. On a un paysage beaucoup plus fragmenté. Mais les conditions de la dissolution ressemblent beaucoup à celles de 97. Oui. Pour Jacques Chirac, si vous voulez, il y avait, quoi qu'il arrive, il y avait une possibilité. Soit il l'emportait, et bon, bah, il avait son équipe toute prête. Soit la gauche était déjà prête. Et d'ailleurs, elle a montré qu'elle était prête à ce moment-là. Donc, si vous voulez, c'était beaucoup moins risqué pour le pays. Après, qu'on soit de droite ou de gauche, on pouvait être mécontent du résultat, bien sûr. Mais c'était pas tout à fait la même chose. Tandis que là, on a une situation incroyablement mouvante et fragile. Et donc, vu la situation du pays, c'est-à-dire avec un endettement très important, des difficultés sociales très grandes, une guerre en Europe, hein, là, ça peut changer beaucoup de choses. Car évidemment, notamment sur la politique étrangère, par exemple, ça peut changer du tout au tout. si le Rassemblement national est au pouvoir, c'est pas du tout la même chose. C'est un parti pro-russe. Donc c'est pas du tout la même chose que si c'est Renaissance ou si c'est la gauche ou la droite. Voyez.
Alors finalement, en tant qu'observatrice aguerrie de la vie politique française, comment est-ce que vous analysez la décision d'Emmanuel Macron? Comment vous estimez ou est-ce que vous comment est-ce que vous analysez cette décision?
Bah, à vrai dire, il nous a montré ces dernières années une forme de caractère. Donc et aussi de mode de fonctionnement du pouvoir. Il exerce le pouvoir très seul. C'est un pouvoir solitaire. Il a très peu de conseillers politiques qui sont des politiques aguerris. Je veux dire, il n'a même pas prévenu son premier ministre qu'il allait décider la dissolution. Il l'a prévenu une heure avant. Donc, il a un exercice du pouvoir extrêmement solitaire, avec juste un tout petit peu tout petit groupe de conseillers dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui ne sont pas des élus. Donc ça c'est très important. Donc il y a un exercice du pouvoir solitaire, il y a une forme de goût pour le coup de poker, le risque, le jouer son va-tout, il le fait tout le temps à vrai dire. Donc il aime ça, mais évidemment ça marche plus ou moins bien. Donc ça lui ressemble et en même temps c'est incroyablement risqué. Et surtout c'est contraire à tout ce qu'il a professé, puisqu'il avait dit, je serai le président qui aura fait reculer l'extrême droite, et il est au contraire celui qui peut avoir mis l'extrême droite au pouvoir.
Merci Raphaël d'avoir été avec nous pour revenir sur cette dissolution ratée de 1997 et à bientôt peut-être sur SBS
À
French.
bientôt. Au revoir.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.